a parlé largement dans le journal. On parle beaucoup d'un potentiel accord entre les États-Unis et l'Iran, et cet accord mettrait donc fin à la guerre. Mais à quelles conditions? Voilà la question, ou une des questions. On analyse tout cela avec Daniel Habert, comme d'habitude, au micro de Blaise van der Linden.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka pour nos traditionnelles conversations. Alors Daniel, selon les dernières nouvelles, évidemment on prend des pincettes, hein, selon les États-Unis, on serait en train de se diriger vers un accord pour mettre fin à cette guerre. Pour l'instant, nous, en tant qu'analystes, on est toujours dans l'attente, guerre ou paix. À votre avis, vers quel type d'accord est-ce qu'on se dirige?
Ce qui est annoncé et qui est assez logique, c'est un accord sur le détroit, c'est-à-dire au fond sur la liberté de navigation, repoussant à plus tard des négociations sur le nucléaire qui sont complexes. Très franchement, si c'est ça, ce sera exactement ce que demandaient les Iraniens. Donc pour eux, c'est une victoire diplomatique. Mais au fond, on verra que le monde entier sera soulagé. Parce que la liberté de navigation veut dire fin du choc pétrolier, fin de la crise mondiale. Alors ça mettra du temps à tout se remettre en place. L'essence continuera d'être quelques semaines encore chère, mais les vacances vont être sauvées. Il y aura un lâche soulagement en fait, hein. Ce qui permet au fond à Trump de dire, voyez, j'ai pris mes responsabilités et je joue pour l'intérêt mondial. Donc il fera passer ce qui est une vraie défaite diplomatique pour une sorte de victoire. Donc ça sera aussi un succès apparent à controverser pour l'Iran. Dans la réalité, l'Iran a pris de tels coups que ce sera une victoire très amère. Et pour les Américains, tout dépendra des contreparties. À la levée du blocus, est-ce qu'ils seront obligés de lever une partie des sanctions? Et ça, c'est le côté dont on ne parle pas assez, mais chaque fois que l'Iran demande toujours la levée des sanctions, parce que c'est ce qui lui permet ensuite d'avoir de l'argent pour nous faire du mal. Et donc, toute levée, même partielle des sanctions, c'est ça la vraie défaite, hein. Donc, il faudra attendre le détail de l'accord. Je dirais que cet aboutissement, si on va vers ça, il est assez logique, parce que au fond, il fera un grand gagnant que l'économie mondiale et un certain nombre de perdants. Le premier perdant, ça sera le peuple iranien. Le deuxième perdant, ça sera les pays du Golfe et Israël qui vont devoir vivre avec un Iran qui est toujours là, toujours islamiste. Toujours agressif, peut-être encore plus radical qu'avant, et qui va immédiatement mettre en chantier la reconstruction de ses armes mortelles. Mais cet aboutissement, il est logique parce qu'il est le résultat de trois facteurs qu'on avait déjà évoqués, le facteur temps, le facteur rapport de force et la Chine.
Oui. Justement, on en avait parlé, alors je ne me souviens plus si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, mais vous l'aviez dit, hein, le temps, le rapport de force et la Chine, on en est où, Daniel?
Écoutez, sur le temps, c'est ce qui permet aux pressions de s'exercer. Or, vous avez à la fois des pressions économiques et des pressions politiques sur les Américains pour mettre fin au conflit. Les pressions économiques, c'est que finalement, l'Iran est prêt à faire souffrir son peuple jusqu'au bout. Donc, il y a peu d'espoir de l'étouffer. Il faudrait des années pour y arriver, et donc le temps joue pour l'Iran. Le monde, lui, est pressé parce que on commence à parler de pénurie, pas seulement d'augmentation de prix du pétrole, mais de pénurie, et les gens commencent à ne plus réserver leurs vacances. C'est une véritable catastrophe économique pour un certain nombre de pays, y compris les pays du Golfe, qui sont des pays qui sont des hubs entre le monde occidental et l'Asie, là où on va en vacances en Thaïlande, au Japon, on passe souvent par Doha ou par ou par Abu Dhabi. Donc cette pression, elle joue évidemment sur les Américains. Il y a aussi les alliés américains en Asie, comme le Japon, la Corée du Sud, les Indonésiens, les Thaïlandais, qui sont les premiers à souffrir et qui disent aux Américains, faites quelque chose pour nous. Donc ça, c'est pour les pressions économiques. Mais vous avez aussi des pressions politiques sur les Américains. D'abord, la pression intérieure. Il y a le 4 juillet qui arrive et il faut que Trump soit pas en guerre, ou s'il est en guerre ou en conflit, il faut que ce soit un conflit qu'on peut gagner. Il est déjà en train d'inventer une nouvelle victoire possible, c'est Cuba. D'ailleurs, depuis qu'il parle de Cuba, on voit bien que c'est plutôt la paix vers laquelle on va en Iran que vers enfin ou un cessez-le-feu plutôt que la reprise des combats. Et puis vous avez aussi toute cette pression des pays du Golfe qui savent que s'il y avait des bombardements sur l'Iran, ils seraient les premiers durement touchés, très durement touchés. Et ça, évidemment, les États-Unis sont obligés de le prendre en compte. Il y a qu'Israël qui a besoin un peu de temps pour finir le travail avec le Hezbollah, mais tout va aussi dépendre du deal qui va être passé là. Est-ce que ça inclura l'arrêt des combats au Liban? Hein, ça sera une des clés peut-être de la négociation et qui est en cours.
Comment est-ce qu'on peut conclure ces conversations, Daniel?
Écoutez, que dans ces guerres asymétriques, le pays qui peut avoir une capacité de dissuasion suffisante pour obtenir une sorte de marche nulle a gagné. C'est arrivé souvent dans l'histoire. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement toutes ces guerres, toutes les guerres étaient assez asymétriques et se sont toujours plus ou moins terminé par un match nul. Regardez la guerre de Corée, regardez la guerre du Vietnam et bien d'autres. Si vous voulez, pour l'Iran, il va conserver sa capacité de nuisance, mais elle est très affaiblie. Et le report à plus tard de la négociation sur le nucléaire ne fait de peine à personne parce que de toute façon, le programme a été atteint, très lourdement touché. Donc, bon, la menace n'est plus immédiate. Et si vous voulez, pour Israël, il a suffisamment affaibli toutes les forces dirigées par l'Iran et financées par l'Iran pour pouvoir gérer l'avenir. Donc en fait, cet avenir, et ça peut être la conclusion, c'est comment va-t-on contenir un Iran très affaibli, mais qui reste avec une forte capacité de nuisance. Et donc là, je dirais que je remettrais ici la Chine. La Chine, on voit bien que la réunion avec Trump a donné des résultats à Pékin. C'est que la Chine probablement a pesé de tout son poids pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Mais plus largement, la Chine a besoin d'un Moyen-Orient en paix. Parce que c'est une partie cruciale de tous les projets chinois, notamment les fameuses nouvelles routes de la soie qui ont pour but de vendre des produits chinois vers l'Europe. Ça passe par le Moyen-Orient. Il faut un Moyen-Orient en paix. Donc, contenir l'Iran, il y aura Israël en première ligne, probablement les pays arabes qui ont une méfiance éternelle pour l'Iran et la Chine qui pourrait être un élément d'équilibre. Quelle place prendra-t-elle? Ça sera l'objet, je pense, de conversations entre nous plus tard parce que ça sera de plus en plus intéressant. En tout cas, la conclusion générale, c'est que la Chine met un pied supplémentaire géopolitique au Moyen-Orient et avec l'accord des Américains et que peut-être c'est un signe qui n'est pas forcément négatif.
Et comme vous l'avez rappelé, on aura évidemment l'occasion d'y revenir dans nos prochaines conversations. Merci beaucoup Daniel Abert d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve la semaine prochaine.